Salut à tous et à toutes, bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Point de vue, votre tour de l'actualité locale au pays. Aujourd'hui, on suit l'eau où qu'elle se trouve, on fait du kayak au centre-ville de Québec.
La descente, c'est encore plus beau que je pensais.
Et ce matin, c'était merveilleux, la température, elle est belle. Un peu de challenge, comme on dit, parce qu'il y a quand même 3-4 endroits où c'est de la R1. C'est une première, mais pas la dernière.
La restauration de Vespasienne Art Déco au cœur d'une querelle entre le gouvernement du Québec et la ville de Shawinigan qui n'en veut pas.
Je pense que c'est une mauvaise décision et on a l'intention de revenir dans les 60 prochains jours pour expliquer au ministre qui n'a probablement pas eu toutes les informations.
Une première radio communautaire francophone voit le jour à l'Île-du-Prince-Édouard, la 29e au pays.
Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait commencé à travailler sur le projet en 1983. Ça fait qu'on parle de au-delà de 42 ans.
Les 16e Jeux des Premières Nations Québec-Labrador se déploient aux abords du magnifique lac Saint-Jean. Ils attirent 1200 jeunes.
Moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est vraiment de voir les jeunes des autres communautés. Je pense que ça, c'était exceptionnel. C'était un peu les premières fois qu'on se voyait, puis qu'on voyait des jeunes de Pakwashipi, des Mohawks de Kanawake. Donc, c'est vraiment spécial, vraiment spécial.
Ceci et plus encore à Point de vue, l'info locale pour vous partout au pays.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Bonjour et bienvenue, Boris Chassagne avec vous pour la prochaine demi-heure. Alors, on est en mode vacances alors que l'on chevauche la fête du Canada et quoi de mieux au milieu de la chaleur de l'été et du temps qui passe que d'être sur ou proche du bord de l'eau? Eh bien, les adeptes de pagaie peuvent se réjouir à la ville de Québec de pouvoir faire du kayak au cœur de leur cité. Ceci grâce à la Société de la rivière Saint-Charles qui bénéficie depuis 4 ans d'une autorisation spéciale de la ville. Pour mener des activités nautiques au cœur de Québec sur la rivière Saint-Charles, les sorties en kayak au centre-ville de Québec attirent chaque année de plus en plus de visiteurs. La clientèle de l'organisme a presque doublé depuis son lancement en 2022, avec 6 activités qui permettent d'en apprendre plus sur l'histoire et la biodiversité de la rivière. Voici ce que nous a préparé Alice Zanetta à Québec.
La descente, c'est encore plus beau que je pensais.
Et ce matin, c'était merveilleux. La température, elle est belle. Un peu de challenge, comme on dit, parce qu'il y a quand même 3-4 endroits où c'est de la R1.
Denis et Sylvie font partie de la dizaine de kayakistes qui ont parcouru ce matin la rivière Saint-Charles jusqu'au cœur du centre-ville de Québec. Les participants ont pu en apprendre davantage sur l'histoire du cours d'eau. Mais pour Sylvie, c'est d'abord le contact avec la nature qu'elle vient chercher.
Pour me rapprocher de la nature, à même Québec, dans la ville. Je ne peux pas croire qu'on a des si belles choses. Moi, ça fait seulement 4 ans que je suis ici à Québec. C'est une première, mais pas la dernière.
Accompagnée de plusieurs guides de la Société de la rivière Saint-Charles, comme Marika Gingras,
je vais ouvrir la marche.
Les participants en apprennent davantage sur la biodiversité qui borde le cours d'eau.
On peut voir des chardonnerets jaunes, des vireaux aux yeux rouges, des grands arles. Il y a aussi un secteur de la rivière où il y a un glissement de terrain, où des martins pêcheurs vont notamment nicher, en fait. Il y a beaucoup de canards colverts également avec leurs petits. Des fois, on y pense pas, on passe à côté de certains endroits, mais on réalise pas la beauté de la nature qui se trouve à côté.
En 20 ans, la qualité de l'eau de la rivière Saint-Charles s'est améliorée, notamment avec la naturalisation de ses berges. Mais la portion urbanisée demeure interdite à la baignade et aux activités nautiques pour le grand public, en raison de la concentration de la bactérie E. coli. La Société de la rivière Saint-Charles bénéficie donc d'une autorisation spéciale de la ville depuis 4 ans. Ces sorties sont importantes pour sensibiliser le public à la protection de l'eau, selon le conseiller en communication de l'organisme, Étienne Ferron-Forget, puisque le lac Saint-Charles, on le rappelle, alimente plus de la moitié de la population de Québec en eau potable.
Mais on invite beaucoup les gens à se réapproprier justement la rivière. C'est sur 10 kilomètres, c'est de le faire réaliser qu'on a un attrait, un joyau naturel assez important, puis qu'on peut en profiter.
Les sorties en en kayak de la Société de la rivière Saint-Charles attire chaque année de plus en plus de visiteurs. L'organisme espère doubler sa fréquentation depuis le lancement de ses activités nautiques en 2022. Et pour les moins expérimentés, des initiations au kayak sont aussi proposées à la Marina Saint-Roch. Alice Anetta pour IJL à Québec. Okay.
Écrivez-nous radio@frequenceinfo.ca.
De l'eau, vous dites, eh bien, la ville de Shawinigan ne veut rien savoir d'un projet patrimonial qui lui a été imposé par le gouvernement du Québec. Les Vespasiennes de type Art déco, il faut aller voir la photo de ces Vespasiennes sur fréquenceinfo.ca. Ben, ces Vespasiennes plantées au milieu du parc Antoine-Saint-Onge et qui datent de 1939 doivent être restaurées à grands frais, dit le gouvernement du Québec. Pas question de les démolir et de les remplacer. Une récente décision du ministère de la Culture et des Communications du Québec place l'immeuble presque centenaire sous la protection de la loi sur les édifices patrimoniaux. Les enjeux sont de taille. L'administration municipale risque de perdre une importante subvention, sans compter la charge financière beaucoup plus importante que représenterait une restauration plutôt qu'une reconstruction. Robert Savard.
Le maire de Shawinigan, Michel Anger, continue de se poser de sérieuses questions au sujet de la décision du ministère de la Culture et des Communications qui entend désigner la Vespasienne du parc Antoine-Saint-Onge bâtiment patrimonial. Ce dossier est sous examen depuis plus d'un an. On se rappellera que la municipalité souhaitait réhabiliter le bâtiment construit en 1939. Un second appel d'offres avait démontré que les coûts dépasseraient de plus de 30% les estimations initiales. De plus, le maire Anger reproche sa décision tardive au ministre Mathieu Lacombe, alors que l'issue était déjà scellée.
Je pense que c'est une mauvaise décision et on a l'intention de revenir dans les 60 prochains jours pour expliquer au ministre, qui n'a probablement pas eu toutes les informations, l'ensemble des tenants et aboutissants d'un projet comme celui-là. On pense que ça faisait du sens qu'on a proposé. On est responsable, on en a restauré plusieurs bâtiments du côté de Shawinigan quand ça fait du sens. Alors, celui-là, ça faisait pas de sens. Alors, donc, on va réagir.
Le maire rappelle que le processus actuel est déjà sous pression pour respecter les délais nécessaires à l'obtention des subventions du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. En forçant la ville à relancer un nouvel appel d'offres intégrant les exigences patrimoniales, Québec retarderait de façon significative la réalisation du projet de bâtiment et de la piscine.
On a demandé une extension là, compte tenu là, du retard que ça a pris pour les plans et de vie et les expertises qu'on a fait. On a eu une petite extension d'un an, mais il reste qu'avec le processus actuel, on va dépasser cette année-là et on semble que les deux ministères ne se parlent pas, puis que nous, on ne veut pas perdre ces quelques millions de dollars. On ne veut pas les perdre parce que là, la piscine est déjà démolie en fonction du plan de masse qu'on s'était donné.
La ville interpelle directement la députée Marie-Louise Tardy afin qu'elle relaie le message auprès du ministre Mathieu Lacombe ainsi qu'au premier ministre François Legault. Robert Savard, IJL, Shawinigan.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Et on bifurque vers l'est du pays pour prendre la direction de la province de l'Île-du-Prince-Édouard, qui va pour la première fois accueillir cette année sa toute première radio communautaire francophone. Elle a été simplement baptisée radioipe.com, car oui, elle sera dans un premier temps uniquement diffusée via le web, mais elle compte bien obtenir sa licence hertzienne dans un avenir approché. Elle reçoit en cela le soutien de l'Alliance des radiodiffuseurs communautaires du Canada, qui aide de Radio IPE à se structurer et dans ses démarches auprès du CRTC, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada. Radio IPE qui dit être la voix de la communauté acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard. Elle devient donc ainsi depuis le 29 juin, c'est tout frais, tout beau, la 29e radio communautaire francophone hors Québec au pays. Paul Galland dirige le projet pour le compte de l'Alliance du développement durable de l'Île-du-Prince-Édouard. Radio IPE offrira dès sa première année des émissions matinales et des émissions de la rentrée, pleine musique aussi. Paul Galland estime que cette radio communautaire sera un outil essentiel pour rapprocher les gens et appuyer les artistes et les organismes communautaires de l'île. Daniel Aucoin, posté à Chéticamp, Nouvelle-Écosse, en parle avec Paul Galland et Jocelyne Leblanc, la toute première directrice de Radio IPE.
J'ai envie de commencer en vous demandant à tous les deux, après toutes ces années d'attente, ça fait longtemps qu'on parle d'une radio communautaire pour les Acadiens, les francophones de l'île du Prince-Édouard. Après toutes ces années-là, comment on se sent à quelques jours du lancement de la radio IPE? Si on commence avec Jocelyne.
Moi, de mon côté, je suis vraiment hâte de voir la radio vraiment commencer. Puisque quand je vois les réactions des gens en communiquant au regard de la radio, les gens sont vraiment excités d'avoir une radio dans la communauté pour montrer la culture, et c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin et que les gens, je pense qu'ils vont vraiment aimer aussi.
Alors Paul, on sait que toi, tu as quand même connu Radio CKJM pendant tes quelques 25 années à Chéticamp. Comment on se sent du comté de l'île du Prince-Édouard pour le lancement de votre radio chez vous?
Ben Daniel, c'est comme une manière d'arrêt, parce que moi, c'est ça, moi, je sens que j'ai été choyé. J'ai déménagé à Chicago vers 93, puis la radio a pris, je pense que c'était 95. Ça fait, moi, j'ai toujours vu avec une radio communautaire, je connaissais bien son importance, l'influence que ça avait dans la communauté. Puis là, que je m'en suis revenu à Lille en 2019, il y avait quoi qui me manquait, là, je ne pouvais pas le mettre le doigt, mais là, on a décidé de revisiter le projet, puis juste pour te dire, je n'étais pas certain, ça faisait longtemps que le projet, on en parlait, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait commencé à travailler sur le projet en 1983, ça fait qu'on parle de au-delà de 42 ans que le projet brassait, puis j'étais rendu, moi je parlais du projet, puis personne ne croyait, si ça avait été essayé plusieurs fois, puis des études, puis tout ça, puis là, le fait que ça commence dimanche, c'est comme, waouh, je crois qu'il y a des gens qui vont, ils vont finalement venir à croire que ça va mal le jour.
Jocelyne, est-ce que tout est prêt pour le lancement de la radio dimanche?
Oui, on a encore quelque chose en préparation pour notre événement, mais ça s'en vient à grands pas.
Paul, comment toi tu vois le rôle de votre radio communautaire chez vous à partir de dimanche?
Ben, moi, j'ai tellement vu la radio à Chéticamp comme un projet rassembleur, tu sais, puis ça, puis j'arrive aussi de l'AGA, de l'Arc du Canada, puis je vois l'effet que ça à travers le pays, puis je me dis, c'était quoi qui me manquait à l'île du Prince-Édouard, puis tu sais pas que tu le manques jusqu'à temps que tu l'as. Et puis, je crois que ça va être spécial. Et une des choses qui m'a frappé, moi, en faisant un peu de théâtre, c'était que la différence entre les, en général, des jeunes de l'île et puis des jeunes de Chéticamp, des places où ils ont la radio, comme à Chéticamp, oui, les jeunes connaissaient les Taylor Swift, tous les artistes anglophones, américains, comme toutes les autres, mais ils savaient aussi qui c'était Ronald Bourgeois, puis Gérard Romain, puis Chester, puis ils connaissaient leurs propres artistes, puis c'était leur zéro aussi. T'sais, c'est ça que je trouve qui fait une différence en termes de construction identitaire.
Si vous aviez tous les deux un souhait pour Radio IPE, ça serait quoi votre souhait, Jocelyne? Qu'est-ce que toi, tu souhaites que la radio, ça va devenir ou ça va être?
C'est certainement une bonne question. On souhaite du moins que les gens vont aimer la musique, les nouvelles qu'on aura genre de diffuser sur la radio, qu'ils pourront voir un peu d'eux dans la radio et que ça sera vraiment quelque chose qu'ils peuvent utiliser pour rester connectés, pour les événements à Lille et pour écouter de la bonne musique.
Paul Galland, c'est quoi ton souhait pour Radio IPE?
Ça suit un peu dans la même ligne que Jocelyne. Je crois qu'on va commencer petit, on va pas aller trop vite, mais je vois l'importance aussi pour les artistes, les arts et la culture. Puis je souhaite qu'un jour la radio puisse devenir vraiment un créateur de contenu, pas juste pour la radio, mais pour la communauté aussi, tu sais, qu'on pourra un jour faire du live stream en direct de spectacle, qu'on développera des choses, que les artistes vont avoir leur place, tu sais, à la radio de Lille.
Alors, on vous souhaite bonne chance avec le lancement de la 29e radio communautaire francophone à voir le jour au pays, à l'extérieur du Québec, Radio IPE, à Summerside, qui lance ce dimanche 29 juin. Alors, Paul Galland, qui dirige le projet, et Jocelyne Leblanc, qui est directrice de Radio IPE, merci d'avoir pris quelques minutes pour nous jaser. Bonne dernière préparatif et bonne chance dimanche.
Merci beaucoup, puis... Si les gens veulent nous écouter, c'est facile. Ils ont juste allé à www.radioipe.ca. On sera là.
Depuis plus de 40 ans, les Acadiens et les francophones de l'île du Prince-Édouard attendent la venue d'une radio communautaire. Radio IPE sera un outil de rapprochement, de fierté linguistique et culturelle et de soutien aux artistes et aux nombreuses associations acadiennes de la région. La radio communautaire prévoit diffuser des émissions spéciales qui viendront enrichir la programmation régulière dans les prochains mois. Ici Daniel Aucoin pour IJL à Chéticamp.
Reste au bord de l'eau dans le secteur de Pointe-Bleue au Québec où l'on n'a pas lésiné sur les moyens pour faire des 16e Jeux des Premières Nations Québec-Labrador une réussite. On a fêté en grand l'ouverture de ces Jeux le week-end dernier. La cérémonie d'ouverture des Jeux s'est tenue à l'aréna de Mastelliache sur les rives du lac Saint-Jean au Québec. Cette mer intérieure formée il y a des temps par le retrait des glaciers, ce lac qui fait plus de 1000 km² est assez profond, son point le plus profond se trouve à 63 mètres ou 207 pieds, si vous préférez. Bon, revenons aux Jeux. Ces Jeux ont été lancés en 1993 avec en tête l'objectif de favoriser la participation des jeunes autochtones à des compétitions sportives dans un esprit de fraternité pour leur permettre, en fait, de peaufiner, découvrir non seulement leurs habiletés sportives, mais aussi leurs racines, leur culture et leurs traditions. Autrefois connus sous le nom des Jeux autochtones interbandes, les Jeux des Premières Nations Québec-Labrador permettent cette année à plus de 1200 jeunes autochtones âgés de 9 à 17 ans et issus de multiples communautés des Premières Nations du Québec et du Labrador de participer à une vingtaine de compétitions sportives telles que l'athlétisme, le volleyball, le soccer, le basketball, le badminton, la course de canot, le montage de tentes, mais aussi des compétitions culinaires, par exemple via le concours de bannick. Le bannick, pardonnez mon inculture, j'ai dû chercher. Oui, je l'avoue, est un pain traditionnel appelé panirtitak, ou encore, me dit notre journaliste Pierre Gill, qui m'écrit « Oh, j'espère que je ne vais pas le massacrer, ce nom-là. » Inu pues hakan, plus vite. Inu pues hakan. Eh bien, justement, Pierre Guille nous a préparé ce qui suit.
La 16e édition des Jeux des Premières Nations Québec-Labrador s'est mise en branle en fin de semaine à Mashuyats, avec plus de 1200 athlètes de 9 à 17 ans, provenant de multiples communautés autochtones du Québec et du Labrador. Cette organisation fait appel à une logistique impressionnante et la communauté de Mashuyats a bien répondu aux exigences imposées par ces Jeux. L'organisation repose sur l'engagement essentiel des bénévoles, des partenaires, des entraîneurs et des familles des athlètes. Ensemble, ils contribuent à faire de cet événement un moment inoubliable pour les jeunes des Premières Nations, tout en promouvant un mode de vie sain et équilibré. Pour les parents accompagnateurs Julie Basile de Iquanichit et Guy Bellefleur de Pessamit, les jeunes méritent un tel déploiement d'énergie.
Mashuyats a toujours été une communauté très accueillante. Fait que nous, on vient encourager. Moi, je suis un peu en vacances. Je viens encourager les enfants de notre communauté, mes petites filles. Fait que je profite un peu des deux, là.
Je trouve ça très accueillant. Puis ce qui est bon, c'est que les jeunes là, se reconnaissent. Puis c'est comme ça qu'ils vont apprendre à travailler ensemble. Ce qui est bien important, là, et c'est sûr que c'est 1200 personnes que l'organisateur avait dit. 1200 personnes, c'est pas une dépense. C'est un investissement au niveau de la santé, physique et mentale. C'est ce qui est très bon pour notre jeunesse, là. Il faut que la jeunesse apprenne à travailler ensemble, à travailler physiquement et à collaborer, à se reconnaître comme Première Nation dans les autres communautés, des autres nations aussi. C'est ça qui va démontrer une collaboration puis une force des Premières Nations parce que c'est vraiment nécessaire où on en est rendu en ce moment.
Le ministre des Relations avec les peuples autochtones, Yann Lafrenière, n'avait que de bons mots pour une organisation aussi importante et surtout pour la qualité des rencontres qui se font à Mashuyats durant ces Jeux.
C'est émouvant. Le vrai mot, c'est émouvant. On est arrivé hier soir, très tôt ce matin, on était sur le site. On a rencontré des groupes qui étaient ici, des jeunes qui étaient emballés. Puis c'est sûr, comme papa, je m'imagine mes filles, je m'imagine moi comme petit cul aussi d'aller dans un événement comme ça, de voir plusieurs jeunes de ma communauté, de ma nation, la langue, la culture. C'est beaucoup plus que du sport, là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de fierté aujourd'hui. Je vois les jeunes avec leur chandail, de leur communauté, de leur nation. C'était vraiment émouvant. Et après ça, ben écoute, Dame Météo a décidé de nous lancer un petit défi. Puis tu sais, moi, il y a un vieux sage qui me disait, c'est pas de la façon que tu tombes que les gens vont s'appeler, c'est comment tu te relèves. Alors oui, la météo nous a envoyé un petit défi et les organisateurs ont trouvé une solution qui était incroyable. Dans l'aréna, c'était cacophonique comme ça n'a pas d'allure, mais sais-tu quoi? Les jeunes qui vont se rappeler, c'est le moment qu'ils ont vécu ici, un moment important. Alors moi, mes messages ce soir, c'était de leur dire, un, vivez ce moment-là, vous allez vous en rappeler de votre vie. Deuxièmement, faites-vous confiance. Quand on rentre dans l'aréna, une belle photo d'un dénommé Francis Véropol, qui était un joueur de hockey, un petit cul qui a joué ici, qui est rendu aujourd'hui le chef de la PNQL. Donc, de sa confiance, d'aller au bout de ses rêves. Le troisième, c'est de dire merci aux organisateurs, à ceux qui ont rendu ça possible. 16e édition. On me dit qu'il y aurait 1200 jeunes, 300 accompagnateurs du monde. Du monde bien nourri. J'ai vu manger ce midi, puis il ne manquait pas de bouffe. Communauté de Mashuyats qui est toujours aussi accueillante.
Pour sa part, le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Francis Véropol, c'est un retour aux sources dans sa communauté.
Tout d'abord, personnel, moi, c'était déjà prévu que j'allais être ici là, pour venir passer un petit week-end à ma famille. Depuis Noël, je n'étais pas revenu. J'avais pas eu la chance, donc j'avais extrêmement hâte, surtout avec le nouveau bébé, de venir qu'ils viennent dormir à Mashuyats, venir voir le lac. Ça coïncidait en plus avec les Jeux. Donc, c'est vraiment un bel événement. Ça rappelle tellement des beaux souvenirs.
C'est ça ce que j'allais demander. Qu'est-ce que ça représente, les Jeux, pour les Premières Nations, pour Francis Véropol en particulier?
Ah, c'est une tonne de souvenirs extrêmement positifs, là. Je me souviens. Mais moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est vraiment de voir les jeunes des autres communautés. Je pense que ça, c'était exceptionnel. C'était un peu les premières fois qu'on se voyait, puis qu'on voyait des jeunes de Pakwashipi, des Mohawks de Kanawake. Donc, c'est vraiment spécial, vraiment spécial.
Puis, l'accueil à Mashuyats, c'est légendaire?
Toujours, toujours. Je pense que Mme Météo n'a pas trop contribué ce soir, mais c'est pas grave. Je pense que on voit, là, les gens sont contents. Les gens sont contents d'accueillir. On voit dans la communauté qu'il y a des banderoles aussi. Donc, c'est vraiment une belle ambiance.
Les prochains jours permettront donc aux jeunes de rivaliser d'adresse tout en nouant de profondes amitiés avant de retourner dans leurs communautés respectives, chargées de souvenirs inoubliables. Pierre Gill, Initiative de journalisme local, Meshtouyats.
Des questions, commentaires ou suggestions? Écrivez-nous radio@commercialfréquenceinfo.ca.
Si la piscine des Vespasiennes de Shawinigan n'est pas sur le point de reprendre du service, celles, au pluriel, de Miramichi vont quant à elles demeurer ouvertes encore quelques années. En réalité, ces structures vont probablement rester en service jusqu'en 2027, puisqu'elles ont encore une décennie de vie utile devant elles. Les installations extérieures de Newcastle et Chatham devaient fermer, mais cette décision a été reportée, et ce, même si elles vont coûter à elles deux 100 000 $ par année pour demeurer ouverte, un mal nécessaire, explique le directeur général de la ville de Miramichi, Mike Noël. Les précisions de Vincent Lavoie.
Le conseil municipal de Miramichi a voté à l'unanimité pour garder les piscines municipales ouvertes au-delà de leur date de fermeture prévue de 2027. Dans son entente de financement avec le gouvernement provincial et fédéral pour la construction du centre multisport, il était convenu que la ville doive fermer les piscines extérieures une fois qu'il sera inauguré. Or, la fermeture du pont centenaire pourrait y changer plusieurs choses, avec la circulation moins fluide, sans oublier une accessibilité manquante sur le court terme. La ville compte faire marche arrière pour les garder opérationnelles.
Quand même que je comprends pourquoi on doit le faire avec la plupart des édifices qu'on en parle. Avec les piscines, je trouve ça un petit peu plus difficile. J'ai passé la plupart de mon enfance, ma jeunesse, dans la piscine à Chatham. C'est là que j'ai appris à nager, j'ai fait partie d'une équipe de natation, et puis c'est là que j'ai fait mes premiers amis dans la ville de Miramichi, de Chatham, dans le temps. Et c'est la même chose à Newcastle, avec la piscine Kinsman. Et puis, ça rend entièrement un différent service qu'un splash pad. Et pour moi, je vois vraiment qu'on en a besoin des deux. Il reste encore plusieurs années d'utilisation avec les deux piscines avant qu'on doit vraiment en mettre de l'argent, mais je crois vraiment que c'est une bonne dépense.
La conseillère municipale Véronique Arsenault assure que le faible coût d'entretien des installations pour les prochaines années facilite à tout pour moins la décision du conseil municipal en ce sens. Le conseiller municipal Guy Richard vit à proximité de la piscine extérieure située à Newcastle.
Je passe à côté de la pool Kinsman à tous les jours, puis je peux te dire que c'est à les utiliser à tous les jours. Souvent, la piscine est pleine. Il y a des adultes, il y a des enfants. C'est une place à être durant l'été.
Les installations, bien qu'elles soient en fin de vie utile, pourraient encore demeurer ouvertes quelques années avant que les réparations plus coûteuses soient requises. Ici Vincent Lavoie pour IJL à Miramichi.
Voilà qui conclut cette édition de Point de vue. Merci à nos journalistes que sont Daniel Aucoin, Alice Zanetta, Vincent Lavoie, Robert Savard, Pierre Gill, Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation, rédactrice nationale Julia Chénu. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire et l'Initiative de journalisme local. À vous, auditeurs et auditrices, merci de nous avoir tenus compagnie. Et à votre radio aussi, merci de nous présenter et de nous diffuser. Continuez à bien profiter de l'été et à la semaine prochaine. Ciao!
écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca, radio@fréquenceinfo.ca.